entendu, des confs à écouter, séminaire, faits didactiques et éducation à. Dans ce troisième épisode, Nolwenn Tréhondard et Tiffaine Carton s'interrogent sur la matérialité des objets numériques et proposent des outils qui permettent de prendre de la distance par rapport à ceux-ci. Elles apportent également des solutions pédagogiques dans ce contexte, avec une réflexion globale et concrète sur ces objets numériques, que ce soit les réseaux sociaux, les livres enrichis ou certains manuels numériques. Cette conférence de janvier 2020 est présentée par Sylvie Pierre, responsable du séminaire. Nolwenn Tréhondard est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Tiffaine Carton est doctorante en sciences de l'information et de la communication pour l'Université Paris 8.
Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans cette salle de conférence du site de Montigny pour le séminaire Faits didactiques et éducation A, donc qui se déroule aujourd'hui, 29 janvier, et qui porte sur sémiotique et formation numérique, décoloniser les regards en contexte scolaire et plus précisément sémiotique et formation numérique pour une pédagogie critique du design numérique. Donc aujourd'hui, nous accueillons Nolwenn Tréhondard, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine, plus précisément à l'INSPI, où nous sommes, à l'Institut National Supérieur du Professorat de l'Éducation de Lorraine, site de Montigny-lès-Metz, et Nolwenn Tréhondard est rattaché au CREM, Centre de Recherche sur les Médiations. À ses côtés, Tiffaine Carton, qui est doctorante au CEMTI, qui est le Centre d'études sur les médias, les technologies et l'internationalisation. Elle travaille sur les représentations des enseignants chez les concepteurs de la plateforme webpedagogie.com, formatrice INSPE, dans le domaine de la culture numérique depuis 2 ans à l'INSPI de Rouen. Voilà. Donc, comme vous le savez, le séminaire Faits didactiques et éducation apporte sur les questions vives, les questions socialement vives, et interroge en particulier les questions de didactique et de ces questions qui sont transversales au sein de la formation des enseignants. Donc aujourd'hui, la question va porter sur la sémiotique et formation numérique, investissant l'éducation aux médias à la fois comme une praxis pédagogique et un champ de recherche questionné par le numérique. La communication de nos deux intervenantes se propose de montrer le potentiel pédagogique d'une démarche en sémiotique réflexive que nous développons depuis quelques années dans le cadre de la formation numérique des enseignants stagiaires. Elles dresseront le bilan de ces expérimentations fondées sur des cas concrets, presse en ligne, livres numériques, réseaux sociaux numériques par exemple, et des groupes de discussion collective favorisant l'introspection idéologique des apprenants. Donc la communication durera 1 heure environ, suivie d'échanges avec le public. Ces communications, je le rappelle, sont enregistrées et vous pouvez les réécouter sur le site de l'INSPE. Je laisse donc la parole à nos deux intervenantes et je les remercie d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre du séminaire Faits didactiques et éducation A que je pilote. Merci.
Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais remercier ma collègue du CREM, donc Sylvie Pierre, de nous accueillir dans le cadre du séminaire Faits didactiques et éducation A, qui s'intéresse cette année tout particulièrement à l'esprit critique et à la formation au jugement. Donc, ce n'était pas prévu, mais j'ai proposé à Tiffaine Carton, donc, qui est doctorante au CEMTI et qui est également formatrice à la culture numérique à l'INSPE de Rouen, de s'en joindre à moi pour cette présentation. En fait, on s'est rencontrés lors d'un colloque l'année dernière et on s'est rendu compte qu'on partageait un certain nombre de réflexions communes qui sont liées à notre statut de chercheuse et praticienne à l'INSPE. Et voilà, on s'est dit qu'on allait profiter de cette occasion pour les exposer ensemble. Donc avant de démarrer, j'aime bien faire un petit rappel de mon parcours. Donc je vais présenter rapidement mon parcours et celui de Tiffaine présentera le sien juste après. Donc pour faire vite, moi j'ai un parcours, j'étais éditrice avant, éditrice scolaire. Et puis je me suis réorientée sur une thèse en sciences de l'information et de la communication qui portait sur les pratiques de lecture et de conception du livre numérique enrichi. Aujourd'hui, mes thématiques de recherche sont en sémiotique sociale, c'est-à-dire que ça croise des questionnements sémiotiques avec une forme de sociologie, on va dire, de la conception ou de la réception. Et je m'intéresse à toutes sortes d'objets culturels ou éducatifs, hein, allant de l'édition numérique à la presse en ligne jusqu'aux réseaux sociaux. De par le fait que je suis formatrice ici aux usages du numérique, je m'intéresse énormément à la question de l'éducation aux médias et à l'information que j'essaye de faire pénétrer de tous mes voeux également au sein de la formation au numérique. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Tiffaine.
Donc moi je suis Tiffaine Carton, je suis doctorante donc au SEMTI qui est un laboratoire de l'université Paris 8 et puis je travaille dans le cadre de ma thèse sur les représentations des enseignants chez un concepteur de plateforme éducative qui s'appelle le web pédagogique. Et je suis également donc dans le cadre de cette thèse formatrice à l'INSPE depuis 2 ans. J'ai d'abord travaillé en fait au sein de l'INSPE de Caen auprès d'aspirants professeurs documentalistes. Et puis, je travaille aujourd'hui à l'INSPE de Rouen pour tout ce qui a trait à la culture numérique. Du fait de ce parcours-là, l'EMI et puis les questionnements liés à la culture numérique m'intéressent à la fois comme objet de recherche et de savoir, et puis dans un travail quotidien d'enseignante. Donc, comme Nolwenn le disait, on s'est rencontrés dans un colloque et on s'est assez vite rendu compte qu'on pouvait nouer un dialogue intéressant sur des questionnements qui nous tiennent à cœur à toutes les deux. Donc, je vous fais une rapide présentation de ces questionnements. Les premiers constats qu'on a faits ont eu lieu au cours de discussions informelles. Et on s'est rencontrés en tant que chercheuses praticiennes, c'est-à-dire des chercheuses qui considèrent que l'expérience de terrain est importante. Toutes les deux, on avait des expériences dans l'édition. Ça fait qu'on a une sensibilité en fait, partagée à la matérialité des objets culturels, puisqu'on a toutes les deux travaillé l'objet livre, hein, tout simplement. Et lors de nos discussions, on a fini par évoquer des frustrations concernant nos terrains respectifs de travail. Et puis, on a eu l'intuition qu'il nous manquait une dimension qui nous permette de travailler à la fois la matérialité des objets numériques, qui en fait n'est pas souvent évoquée, et des outils pour se distancier de ces objets qui sont omniprésents. Et on a essayé toutes les deux, on avait vraiment à cœur de trouver des solutions concrètes ensemble, donc c'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui, d'être le plus concrète possible, trouver des solutions à des obstacles pédagogiques et épistémologiques qui se sont révélés, notamment lorsqu'on a travaillé certaines questions avec les étudiants sur le terrain. Un de nos enjeux communs, c'est de ne pas se contenter d'une perspective pédagogique sur les outils, bien qu'elle soit bien sûr intéressante, mais on cherche à réfléchir sur les objets numériques en tant que tels. Hein. Et ça nous semble d'autant plus essentiel que ces objets se sont multipliés au cours de ces dernières années. Je reviens juste sur une petite anecdote, je vais aller très vite, mais pour ancrer encore une fois ces questionnements dans le concret. Il se trouve que dans le cadre de mon travail à l'INSPE, je suis formatrice PIX, et un exercice sur cette plateforme, je reviendrai sur PIX, hein, je vous expliquerai en quoi elle consiste. On demandait donc aux étudiants de faire une recherche d'informations basiques de type trouver la date de naissance de Barack Obama. Et donc mes étudiants étaient en train de travailler sur la plateforme PIX et je leur ai demandé mais comment vous avez fait pour trouver cette information, cette date de naissance? Et une des étudiantes m'a dit j'ai cliqué sur le premier lien dans la liste qui m'était proposée par Google. Et elle n'était pas capable en fait de m'expliquer sur quel type de site elle s'était retrouvée. Et là je me suis dit tiens, mais est-ce qu'il ne faudrait pas s'interroger sur les stratégies de Google, qui est un infomédiaire, et donc qui a intérêt à ce qu'on reste le plus possible sur la page d'accueil, donc la page d'accueil que vous avez là, et qu'on ne rentre pas dans les sites mêmes que l'infomédiaire propose. Et donc cet exemple-là, il illustre bien l'intérêt de cette approche, c'est-à-dire prendre du recul sur des objets numériques quotidiens, communs, pour aider les étudiants à s'émanciper de certains cadres qu'ils ont du mal à percevoir, en fait, hein. Et donc, une de nos questions centrales qu'on essaye d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est justement, comment faire prendre conscience à nos élèves de l'épaisseur matérielle, culturelle et médiatique sur laquelle vont s'appuyer leurs pratiques les plus banales. Hein. Et donc, on a cherché à enquêter toutes les deux sur une panoplie d'outils qui sont jamais interrogés en termes d'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a du mal à essayer de comprendre, à essayer de voir quelle vision ces outils portent en eux-mêmes. Je vous donne un exemple encore concret. Si on pense aux tablettes numériques, peut-être que vous avez essayé de travailler avec ces objets. La tablette en elle-même, en fait, elle renvoie un objet très ancien, hein, la tablette en argile des scribes, ça renvoie à une ancienne technologie intellectuelle et en même temps à un imaginaire de l'innovation pédagogique qui peut servir le discours marketing promotionnel de certains constructeurs, par exemple Apple, hein, qui a largement diffusé ses tablettes numériques, notamment dans le cadre du plan numérique pour l'éducation, qui a débloqué un très très gros budget pour l'équipement des établissements. Donc voilà, à partir d'un objet banal, comment on peut le penser en fonction de référentiels culturels anciens et puis essayer de déconstruire des discours marketing. Voilà. Donc ce regard qu'on veut porter sur ces objets numériques, ça correspond en fait à une pédagogie critique des interfaces numériques que nous on essaye de monter ensemble. Et du coup ça s'inscrit dans le cadre d'une approche en littératie médiatique multimodale. Alors ça paraît une expression un petit peu barbare comme ça. En fait c'est un champ de recherche qui existe depuis quelques années au Canada, au Québec hein, plus particulièrement, qui a été donc monté par des chercheurs canadiens. Et le principe de cette approche, donc vous avez une définition ici de ce que ça implique. En fait, le principe de cette approche, ça va être de dépasser une vision de la littératie, donc la littératie compétence en lecture, écriture, hein, qui serait centrée sur le langage verbal. En contexte numérique, on va chercher dans cette approche-là à étudier la manière dont le sens est produit. Et il se trouve que dans les univers numériques, ce sens, il va mobiliser des combinaisons de ressources sémiotiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il va y avoir une articulation entre différents modes de construction du sens. On va avoir notamment, par exemple, des produits médiatiques qui vont articuler des modes linguistiques, donc qui mobilisent le langage écrit, des modes visuels, des modes sonores. Vous avez donc sur le côté gauche, une capture d'écran d'une story. Donc la story, c'est un objet typiquement multimodal. Là, on a été chercher cette capture sur le site du Monde. C'est donc une story sur le thème des féminicides. Et ce qui va renforcer le sens de ce micro-reportage, c'est la combinaison, en fait, du texte qui s'affiche, qui est animé, donc qui bouge, et de l'image en arrière-plan. Et la combinaison de ces trois modes va renforcer le sens du message qu'on veut porter. Voilà. Et il se trouve que donc ces nouveaux objets numériques nécessitent de nouvelles compétences qui sont d'ailleurs prises en compte dans les programmes. Hein. Ces interrogations-là, elles rentrent aussi en résonance avec des exigences nouvelles de l'institution. Donc nous, ce qu'on veut faire au cours de cette séance, c'est de vous montrer par des exemples et des terrains concrets qu'il est possible de pratiquer en contexte pédagogique des exercices sémiotiques simples sur une grande diversité d'objets numériques. Une fois qu'on y a pris goût, on peut vraiment bien s'amuser. Par exemple, on pourrait travailler sur les manuels numériques dont peut-être les établissements dans lesquels vous avez fait vos stages ou dans lesquels vous êtes allé, sont équipés hein, avec le plan lycée 4.0 qui concerne donc le Grand Est. On peut aussi travailler sur les réseaux sociaux numériques, sur les livres enrichis, voilà toute une variété d'objets et donc on va vous proposer des exemples d'une approche donc sémiotique critique qui permettent d'analyser ces objets.
En effet, pourquoi on a intitulé cette intervention sémiotique et formation numérique pour une pédagogie critique du design numérique? Donc la sémiotique, juste petit rappel, c'est l'étude des processus de construction du sens hein, grâce au système de signes. Mais ici, nous, ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la formation du regard et d'un regard critique face aux interfaces numériques qui vont peupler aujourd'hui notre quotidien, celui des écoles et celui des apprenants. Comment leur matérialité, qui passe par un design graphique, qui passe par des formes matérielles, une mise en forme éditoriale, va orienter et modéliser des pratiques. Alors, j'ai mis ici une petite définition de Nicole Pigné, qui définit le design comme un dessin associé à un dessin, D-E-2-S-E-I-N. Analyser les supports d'information, de communication, écrit-elle, c'est donner la capacité à l'élève d'en questionner le design au sens de configuration, forme, dessin, fonctionnement technique, mais aussi aux formes de dessin, c'est-à-dire de but, et plus fondamentalement de visée éthique, de conception de ce qui est fondateur de mieux-être individuel et collectif. Elle prend l'exemple de l'outil BabyTweet, qui est utilisé en classe. Donc c'est un réseau social open source qui est censé protéger les données personnelles des utilisateurs. Et donc elle explique que le seul objectif d'apprendre à utiliser BabyTweet pour ensuite finalement savoir adopter les bons comportements sur Twitter, par exemple, n'est pas suffisant. Il importe aussi de comprendre quelles sont les configurations spécifiques de l'écriture sur ce type d'outil et quel mode de communication il peut offrir. Par exemple, qu'implique la contrainte d'écrire des textes très courts ? Quelles pratiques d'écriture sont ici mobilisées ? Quelle place cela laisse à l'argumentation ? Et donc, il nous semble que cet apprentissage d'une culture sémiotique des écrans, qui va passer par des exercices de lecture critique des interfaces, est un enjeu essentiel aujourd'hui dans l'acquisition d'une culture numérique à l'école. Alors, la démarche peut faire peur, elle prend du temps, et puis beaucoup est encore à construire. Il existe aujourd'hui toute une panoplie d'outils sémiotiques que l'éducateur aux médias peut utiliser pour analyser une image, un film. Il existe aujourd'hui beaucoup d'ouvrages sur la question. Mais par contre, beaucoup moins dès que l'on parle d'interface numérique, à moins de réutiliser le vocabulaire formaté des industries du numérique. Et je pense que mes étudiants ici présents dans la salle le savent, puisqu'on a essayé de s'y exercer. Si la démarche est difficile à mettre en œuvre, c'est aussi parce que les interfaces numériques sont ancrées dans notre quotidien et si ancrées qu'on a tendance à considérer les pratiques comme naturalisées, comme des allants de soi du numérique et du numérique éducatif. Et il est par ailleurs difficile de détecter les enjeux économiques et idéologiques qui se nichent au cœur de la matérialité de ces interfaces, tant de nombreux procédés rhétoriques et sémiotiques cherchent à les invisibiliser sous des couches de design, dont l'apparente transparence fait aussi office de boîte noire. Alors, pour illustrer cette idée, je vais prendre l'exemple de Netflix, une plateforme de vidéo streaming que vous connaissez tous. Netflix, la nouvelle drogue, titré l'Express il y a 2 semaines, dans un article qui analysait la manière dont les techniques de captation de l'attention de l'usager vont se nicher jusqu'au cœur du design de la plateforme. Alors, vous connaissez, j'imagine, un peu tous la page d'accueil. Donc, cette page d'accueil qui se transforme à chaque passage et qui donne l'impression d'un perpétuel renouvellement. Ces multiples vignettes qui donnent aussi l'illusion d'un catalogue peut-être plus vaste qu'il ne l'est réellement et dont on ne peut pas vraiment savoir l'ampleur réelle. Des épisodes qui vont aussi s'enchaîner de manière automatique sans que l'on ait plus à cliquer nulle part. La possibilité de sauter maintenant le générique pour aller plus vite dans la lecture du prochain épisode. Et puis bientôt, paraît-il, la possibilité de lire en accéléré des épisodes pour attraper une série. Donc tout semble fait pour inciter l'utilisateur à rester le plus longtemps possible devant son objet. Louis Althusser définit l'idéologie comme des objets culturels perçus, acceptés, subis, qui agissent fonctionnellement sur des hommes par un processus qui leur échappe. Eh bien, pour échapper à ces processus d'emprise, il nous semble donc essentiel de proposer des outils, des méthodes, des pistes de médiation éducative qui pourraient peut-être aider les futurs enseignants et les apprenants à décrypter justement ces enjeux économiques et idéologiques qui vont se nicher jusqu'au cœur du design des interfaces numériques. Il s'agit ici de les inciter finalement à se mettre dans une situation de réception un peu extraordinaire, c'est-à-dire de les inciter à regarder longuement, attentivement, les formes de ces artefacts numériques, de manière à conscientiser les routines installées et les gestes qu'on ne se voit plus en train d'exercer. Donc pour aider la communauté éducative à décoder les intentions qui sont cachées sous le design, notre posture à nous, c'est qu'il est possible de s'appuyer aussi sur des démarches sémiotiques ou sémiopragmatiques qui vont s'intéresser non pas seulement au contenu médiatique, au texte, images et sons, mais également à l'architecture de la page, papier ou écran, pour étudier comment le design, comment l'architecture de l'information structure aussi des usages et des formes de réception. Catherine Becchetti-Bizot et Alain Brunet écrivent qu'il s'agit là avant tout de faire prendre conscience que les conditions de production de l'information, le support ou le canal de diffusion ne sont pas neutres. Ils conditionnent la forme des messages et induisent des choix.
Hein. Donc de lire par exemple un livre numérique sur une tablette iPad ou sur un Samsung, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Ou encore de les lire sur un format EPUB ou sous un format application. Hein. Ce sont des formats qui véhiculent aussi des valeurs idéologiques et qui ont des stratégies économiques derrière qui sont véhiculées par des entreprises. Donc le support hein, sur lesquels vont se lire ces contenus est important à analyser aussi. Et donc pour analyser ce cadre qu'on appelle donc techno-sémiotique, il y a différents concepts que moi j'essaye d'utiliser aujourd'hui dans le cadre de la formation au numérique et qui s'appuient sur les travaux critiques, sur les écrits d'écran qui ont été développés par Yves Jeanneret et Emmanuel Souchier, notamment le concept d'énonciation éditoriale qui va désigner finalement tous les éléments de design que l'on peut voir en surface sur la page écran et qui vont aussi incarner des valeurs de producteur. Et puis, il y a également ce concept d'architecte que vous connaissez ici un petit peu, je crois, maintenant dans la salle, qui a été forgé pour désigner les champs de saisie, les menus, les cases à cocher, en fait, tout ce qui va guider le processus de production. Si vous voulez, l'architecte, c'est un peu le content management system, hein, pour le dire autrement, mais qui va guider tout ce processus d'éditorialisation numérique. Et donc, c'est un concept qui permet de désigner et de décrire ces formes qui sont, dès le départ, en fait, programmées et automatisé. Alors là, je vous ai mis quelques ouvrages sur lesquels je m'appuie souvent. Donc, dans son livre « Les fabriques de soi », qui porte sur la création industrielle des identités par les systèmes de gestion de contenu, de Facebook, là en l'occurrence, Gustavo Gomez propose une simple question, c'est-à-dire de se demander toujours de manière systématique, quand on est face à une interface numérique, qu'est-ce que la technique m'impose par défaut quand je m'exprime à l'écran ? Et donc, lui, il invite à ne pas considérer les supports du web comme des nouveautés, toujours extraordinaires, hein, mais plutôt comme des trames de contraintes industrielles hein, avec lesquelles chaque sujet doit composer pour exprimer son identité en ligne. Nos identités sur Facebook sont le produit finalement d'un compromis entre ces trames de contraintes industrielles hein, qui sont formatées par les architectes et puis nous, voilà, les usages qu'on va en faire, les contenus qu'on va y mettre. Et donc ces concepts permettent de décrire la modélisation des conduites de l'usager par l'analyse des stratégies qui conduisent au cadrage de son attention. Donc ça peut être l'analyse des listes à dérouler, des cadres à renseigner, des cases à cocher, et de voir comment celles-ci peuvent potentiellement agir, hein, parce qu'on a toujours, en tant qu'usager, une action possible, une résistance possible. On va tous avoir des pratiques différentes. Mais comment, en tout cas, elles tentent d'agir comme des forces et essayer de normaliser des pratiques expressives pour les exploiter. Et donc, la difficulté, c'est ici aussi d'arriver à circonscrire en fait, ces grammaires de production et de ne pas focaliser la seule attention sur les contenus. Et puis, il y a un dernier travail qu'on peut aussi faire, hein, c'est de travailler sur ce qu'on peut appeler des opérateurs de mise en activité ou encore des sollicitations sémiotiques. Ce sont toutes ces petites icônes activables hein, de partage, les emojis, qui encouragent aussi des pratiques, qui vont véhiculer des injonctions, des invitations à agir et qui sont souvent inscrites aussi dans ces idéologies du web social, du web contributif, du web affectif. Hein. Et ces métaphores, elles ne sont pas seulement graphiques, hein, elles sont aussi présentes dans les mots, dans les noms des dispositifs, Facebook, hein, le trombinoscope, hein, les fonctions des utilisateurs et les actions. Quand on parle de fil ou de flux d'actualité sur Facebook, eh bien, ça permet aussi de véhiculer des imaginaires qui sont liés à l'actualité. Hein. De proposer des boutons like, on peut se demander si ça ne permet pas aussi de créer un climat un peu euphorisant hein, qui est généré par cette incitation continue finalement à approuver les contenus des autres. Il n'y a pas de bouton « je n'aime pas » sur Facebook jusqu'à présent. Ils ont d'ailleurs hésité à une époque à en mettre ou pas et, Zuckerberg a préféré ne pas en mettre. Et c'est, je pense que voilà, c'est une décision qui ne vient pas de nulle part. Alors, on va rentrer dans un petit terrain concret. Donc moi, j'ai commencé à mener ces types d'expérimentations auprès de mes étudiants cobayes, les IDP ici présents, mais également auprès des professeurs documentalistes. Et ce que je vais vous présenter là, c'est une enquête, hein, donc j'appelle ça une enquête sémiotique, que j'ai faite avec eux sur Facebook. Hein. Donc on a travaillé sur la plateforme Facebook d'une manière peut-être un peu inhabituelle par rapport à la manière dont eux, en tant que professeurs documentalistes,
journalistes avaient l'habitude de s'en emparer. Et puis, Tiffen proposera de son côté après une réflexion sur la plateforme Pix, qu'on a commencé à mener ensemble. Et puis, bah, si on a un peu de temps, on pourra aussi parler d'autres objets. Voilà, on verra en fonction du temps. Donc, ce terrain Facebook, c'était 6 fois 2 heures de cours, 15 étudiants en master 2 MEF documentation de l'INSPE de Lorraine à Nancy. Et ça a eu lieu pendant un cours qui s'appelait Culture informationnelle. Alors j'ai choisi Facebook parce que c'est aujourd'hui le lieu où bien souvent les élèves s'informent, prennent l'information. Donc l'objectif, il y avait deux objectifs, c'était d'une part d'exercer ou d'engager, de les sensibiliser ces étudiants à ce travail de reconnaissance et d'identification des formes de Facebook et la manière dont elles tentent d'imposer aussi un cadrage à leur pratique, et donc en partant de ces concepts, hein, d'énonciation éditoriale et d'architecte. Et puis d'autre part, de travailler aussi selon une démarche réflexive qui était aussi fondée sur la prise de conscience du rôle que joue aussi leur propre système de croyance, d'appartenance dans leurs interprétations, dans leur formation du regard, dans la manière dont ils pouvaient appréhender Facebook. Donc, comment ça s'est passé ? Il y a eu 6 séances de 2 heures au premier semestre. Donc c'est long, hein, c'est des processus qui sont longs à mettre en place, puisqu'il y a beaucoup de discussions collectives. Il faut prendre le temps, il faut avoir du temps devant soi. Mais donc c'est durant ces séquences que j'ai recueilli avec l'accord des étudiants des données que je vais vous livrer ici, et puis que j'ai ensuite retranscrit intégralement toutes les discussions. Alors on a travaillé en mode projet, donc les étudiants se sont répartis en groupes de 3 ou 4. Je leur avais donné un petit tableau pour le rendu final. Donc certains ont travaillé sur la page profil de Facebook, d'autres ont travaillé sur le fil d'actu, certains depuis leur ordinateur, d'autres depuis leur smartphone. Et puis on s'est regroupés en cercle et moi j'ai essayé de me positionner en tant que plus observatrice qu'enseignante, en leur donnant un petit peu les règles de fonctionnement de ce type de débat, hein, c'est-à-dire la bienveillance, hein, écouter les autres, essayer de ne pas imposer son point de vue envers et contre tout. Donc on a fait en amont une première discussion collective avant même d'aller sur Facebook pour savoir quelles étaient leurs représentations et leurs usages de Facebook. Et la manière dont aussi ils pouvaient imaginer en fait les pratiques de leurs élèves. Donc sur 15 étudiantes, une seule n'était pas utilisatrice de Facebook. Et puis il y a eu un consensus assez fort, hein, qui s'est dégagé autour des usages courants de Facebook. Donc ces consensus, c'était cela, hein, dans un premier temps. Alors, c'est des professeurs documentalistes, hein, donc ils ont aussi une culture du métier qui les amène, je pense, à avoir certaines représentations. Mais direct, en fait, ils ont affiché leur crainte de l'enfermement dans les phénomènes de bulles de filtres informationnels et culturels. Donc, les gens, alors pas forcément elles, hein, mais les gens restent coincés dans leur vision du monde. Hein, voici la vision des pratiques sur Facebook. Une méfiance aussi envers le désir de reconnaissance et de visibilité auquel le dispositif incite. Hein, donc des gens sur Facebook, on ne trouve que des gens prétentieux qui se racontent. Et puis des formes du mépris envers la banalité des échanges, voilà, qui seraient affligeants. On voit aussi que la manière dont ils peuvent imaginer les usages courants des élèves n'échappe pas non plus à ces représentations négatives. Les élèves seraient encore moins mûrs finalement que les aînés, puisque leur pratique consisterait essentiellement à poster, à regarder les photos des potes, à fêter les anniversaires. Donc ils seraient finalement affiliés à ce régime de la nouveauté et du ludique. Et dès lors, évidemment, l'approche en contexte pédagogique, d'éducation média d'une plateforme comme Facebook devrait, selon ses futurs professeurs documentalistes, être centrée sur des stratégies de prévention, de sécurité, de bonne conduite, afin qu'ils deviennent plus responsables et plus citoyens. Donc on voit bien comment ces propos reflètent aussi tous les discours d'accompagnement aujourd'hui autour de l'éducation média à l'information. On voit aussi comment ils peuvent refléter l'influence des idéologies, de la modernité, de l'innovation, hein, puisque plusieurs étudiants ont émis quand même de fortes réticences à l'idée qu'on travaille sur la plateforme Facebook, hein, au prétexte que celle-ci n'est plus utilisée par les élèves aujourd'hui, qui vont plutôt utiliser majoritairement Snapchat ou TikTok. Hein. Donc je n'oserais pas faire quelque chose avec mes élèves sur Facebook. Je pense qu'ils me regarderaient comme une vieille qui débarque avec son Facebook et qui est complètement has-been. Hein, bon, on a quand même travaillé sur Facebook. Leur propos révèle aussi une affiliation à tout le discours qui est un petit peu soft friendly de Facebook. Hein. Donc, ils restent dans leur bulle de filtre, ils sont centrés sur leurs intérêts personnels. Et puis surtout, il faut éviter tous les conflits qui sont liés à ce que Dana Boyd appelle l'effondrement des contextes. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de différence finalement sur Facebook entre le contexte, on va dire, professionnel, la vie privée. Donc il y a cette peur aussi que finalement les élèves aillent sur Facebook rechercher ce que font leurs enseignants. Et donc là, depuis qu'ils sont en formation et qu'ils vont devenir enseignants, il s'agit de rester neutre désormais et de s'auto-censurer. Et une seule étudiante dans tout le groupe a dit que, n'hésitez pas clairement à afficher ses convictions sur Facebook si quelque chose l'avait choqué ou interpellé. Alors, à quoi a servi cet échange collectif ? De prendre conscience déjà qu'il y avait un certain nombre de points de vue qui étaient largement partagés dans le groupe, et aussi d'avancer des hypothèses sur pourquoi ces points de vue. Donc évidemment le partage d'une culture professionnelle, hein, qui est celle de professeurs documentalistes, hein, donc là on a affaire à des étudiantes qui sont averties, dont c'est même le futur métier ou la future vocation. Et puis tous les discours d'accompagnement, les programmes sur l'éducation aux médias et les GAFAM. Alors, dans un deuxième temps, c'est là qu'on a travaillé sur plusieurs séances de travail sur l'analyse de l'énonciation éditoriale et des architextes, donc du fil d'actualité et de la page profil. Je leur avais donné des textes théoriques je leur avais donné des textes de Valérie-Jeanne Perrier et d'Emmanuel Souchier pour les guider, les confronter aussi à des textes un peu théoriques, voir comment ils allaient réussir à s'en emparer et en faire quelque chose sur un terrain concret. Hein. Donc là, vraiment, clairement, il s'agissait pendant toute la séance de se pencher sérieusement pendant 2 heures sur le fil d'actu de Facebook ou une page profil et d'essayer de repérer à l'intérieur des blocs, peut-être, et d'essayer de comprendre quelles pratiques de réception pouvaient être modélisées dans ces blocs, c'est-à-dire vers quelles pratiques pouvaient orienter ces blocs. Donc c'était l'idée en fait de faire comprendre aussi qu'il y avait là ce qu'on appelle des lectures préférentielles, c'est-à-dire des lectures préférées à d'autres, hein, que Facebook tente d'imposer. Donc pendant la discussion collective, ce qu'on s'est rendu compte après, c'est que les étudiants expliquaient qu'ils évitaient de prendre part finalement à des discussions sur Facebook pour éviter d'afficher leurs opinions, leurs convictions. Donc en fait, ils avaient largement déclaré vouloir protéger leur vie privée. Et en fait, l'analyse des cadres éditoriaux de Facebook, ça a permis de montrer qu'au contraire, ce dispositif modélise bien à l'inverse des pratiques de participation et utilise un grand nombre de stratégies rhétoriques et sémiotiques pour inciter tous les usagers à dévoiler leurs opinions. Hein. Et donc voilà, ils ont pu comme ça un peu prendre conscience de la manière dont finalement cette plateforme s'adressait à eux et leur envoyait des injonctions, par exemple l'impératif « exprimez-vous », hein, que l'on voit sur le petit texte qui s'affiche dans quand Facebook vous dit vous n'êtes pas exprimé depuis un petit moment, donc exprimez-vous. Ou l'accent mis aussi sur le dévoilement identitaire de l'usager, qui est invité à se raconter par beaucoup de stimuli ludiques, remplir des questionnaires, quel film je préfère, etc. Donc ça leur a permis d'identifier clairement ces stratégies à l'écran. Là c'est quelques verbatims d'étudiants. L'utilisation de l'impératif donne l'impression que Facebook ordonne aux utilisateurs de publier. Cette discussion m'a fait prendre conscience que les utilisateurs peuvent voir dans ce vocabulaire ce qui s'apparente au mot d'un confident ou d'un psychologue. Donc Facebook en tant que confident, qui joue ce rôle de confident ou de psychologue. C'est très insistant, on nous invite partout à fournir nos données. Donc c'est le métier de ces professeurs documentalistes que d'expliquer aux futurs élèves cette collecte de leurs données, de leur apprendre à s'en méfier ou en tout cas y faire attention. Là, ça leur a permis de voir clairement comment à l'écran c'est modélisé, c'est pratique. Tout n'est pas de la faute de l'élève qui fait n'importe quoi sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des stratégies qui sont mises en œuvre et qui sont fortement incitantes. Donc c'est intéressant aussi de se rendre compte comment à l'écran elles prennent forme et elles s'affichent. Donc en conclusion, cette analyse des cadres sémiotiques a permis de mettre en relief ce rôle joué par le design de la plateforme. En fait, de mon point de vue, ça permet de donner un cadre aussi un peu concret à ces discussions. de s'appuyer voilà, sur des éléments, sur des formes pour en discuter. Ils ont pu aussi discuter de l'attraction justement des jeunes, de leur fascination peut-être, alors peut-être plus pour Facebook, mais pour d'autres plateformes, hein, puisqu'on peut reproduire ce procédé sur d'autres plateformes. Et ils ont pu questionner ça au regard aussi du pouvoir d'attraction et de fascination bah, du design, hein, des cadres éditoriaux de Facebook qui misent sur l'affectif, sur le désir de sociabiliser. Et donc ils ont alors parlé d'aliénation affective, alors, c'est allé loin hein, après dans la critique, d'aliénation affective, de fausses impressions de libre arbitre, d'un design sympathique et féminin qui permet d'introduire de manière moins agressive des questions portant sur l'intime, de modes de diffusion narcissique de l'information qui donne l'impression qu'elle nous est familière ou encore d'une lecture fragmentée sans fin qui invite à rester le plus longtemps sur la plateforme. Hein, ça, on l'a vu aujourd'hui, souvent le design de l'information. On est sur cette lecture en flux qui donne une impression d'infinité et qui fait que voilà, on peut rester très très longtemps puisqu'il n'y a pas de, de conclusion ou de fin. Une élève, c'est aussi, et c'était pas vraiment pas le but hein, de l'intervention, mais c'est désengagée de Facebook suite à cette à ces travaux. C'est je visais pas du tout ça. Il s'agissait pas de les dégoûter ou de mais pour dire que c'est agissant en fait voilà que la méthode enfin que ce qu'on a fait ensemble ça a eu des répercussions ensuite sur leur manière d'être ou de voir Facebook. Et donc ensuite, on a clôturé la séquence. Là, on s'est plus concentré, enfin, ils se sont plus concentrés sur la dimension moralisante du dispositif. Ça a un peu retourné je pense, leur manière de voir les élèves, c'est-à-dire au lieu qu'ils en viennent à moraliser leurs élèves dans voilà, est-ce que vous adoptez ou pas les bonnes pratiques, là, ils ont vu que le dispositif en lui-même comportait des injonctions aussi à la moralisation, des formes de censure. On peut dénoncer aussi certaines pratiques. Ils ont, au final, donc je leur ai demandé des écrits réflexifs hein, sur cette expérience qu'on avait faite ensemble. Ils ont dit qu'ils avaient apprécié de mettre à distance leurs normes professionnelles et de découvrir cet appareillage critique qui leur avait permis de déconstruire un peu plus, couche par couche, donc cette épaisseur sociale des couches de médiation dans Facebook. Alors, en tant qu'enseignante, moi, cette expérience, il me semble que ça ouvre aussi, enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis d'ouvrir des perspectives qui m'ont semblé intéressantes en termes de pédagogie critique. Aussi la difficulté hein, de construire des outils, on va dire, théoriques, mais aussi de lecture critique, qui sont adaptés à ces objets-là, qui sont aussi adaptés, qui pourraient être adaptés aussi à des élèves du secondaire ou du primaire. Hein, on en a discuté, mais c'est vrai que c'est le concept d'architecte, voilà, on peut l'entendre théoriquement, c'est plus difficile, évidemment, d'en parler comme ça en classe de maternelle ou de primaire ou de secondaire. Donc voilà, comment on peut faire aussi pour essayer de vulgariser et d'introduire hein, cette pédagogie critique du design sur le terrain de la classe. Et puis aussi, l'idée, c'est évidemment, là, c'est de ne pas être dans une posture surplombante. C'est bien pour ça qu'il y a eu des discussions collectives. C'est pas l'enseignant, le professeur, ces méticiens qui arrivent et qui disent, voilà, je vous donne mon point de vue sur Facebook et voilà toutes les critiques qu'on peut faire. Mais c'est vraiment de faire émerger ça par le biais de discussions, de les aider à aiguiser leur regard, de l'ajuster, mais de réfléchir ensuite collectivement à qu'est-ce que ça veut dire en fonction de moi, de mes croyances, de mes appartenances et de la discussion de groupe. Hein. Je continue d'encore deux secondes. Alors, cette expérience, j'ai pas encore eu le temps d'aller au bout hein, de ce terrain-là, mais on peut l'amener sur d'autres objets. Donc, on a commencé à le faire sur la presse en ligne, hein, sur Libération. Ça nous a permis de réfléchir un peu au cadre éditorial de la presse en ligne aujourd'hui. Par exemple, donc là, c'est le nouveau site de Libération qui a changé. Donc on a aujourd'hui cette fameuse disposition en patchwork hein, qui peut donner l'impression d'une vision parcellaire du monde et de l'information. La nouvelle logique du hit parade aussi, hein, qui est appelée le top 100 dans Libération, qui semble en tout cas matérialiser l'idée d'un public suiveur hein, qui préfère consommer des contenus plutôt que ses semblables privilégient, qui est calqué clairement aussi sur le modèle des réseaux sociaux. Donc ça permet de montrer qu'il y a aussi des relations de mimétisme un petit peu entre la presse en ligne et le fonctionnement des réseaux sociaux. Ou alors encore maintenant le déroulement par scrolling du fil d'actu de libération, hein, qui peut être vu de différentes manières, une déambulation, une flânerie un petit peu agréable ou une plongée au contraire vertigineuse dans des contenus où on est perdu et voilà. Et puis en parallèle, on a mené des discussions pour voir un petit peu comment chacun se positionner par rapport à ça, pourquoi on ne voyait pas la même chose, pourquoi on ne l'interprétait pas de la même manière, en fonction de nos connaissances sur le journal, qui connaissait ou pas Facebook, en fonction de nos affiliations politiques, en fonction aussi de nos habitudes en matière de presse. Hein. Donc là, l'idée de cette sémiotique sociale ou réflexive, c'est vraiment à la fois d'essayer de donner des outils qui ne soient pas les outils des industries du numérique, mais d'essayer de forger nos propres manières d'en parler et d'en discuter. Et de discuter aussi par le biais de discussions collectives pour mettre voilà, en correspondance ou en confrontation des points de vue, des opinions. Je vais laisser la parole à Tiffane qui va embrayer sur voilà, son point de vue et vous emmener vers d'autres expériences.
Alors, moi, je vais adopter une perspective qui est un petit peu différente de celle de Nolwenn, mais qui rejoint quand même les thèmes qu'elle vient de vous exposer. J'ai cherché, en fait, à réfléchir sur les liens entre langage et design et comment, en s'intéressant tout simplement au vocabulaire pour commencer, on pouvait réussir à débusquer des impensés du numérique. Donc, je vous présenterai des exemples tirés en fait de deux terrains de pratique et de recherche. Je chercherai en fait à analyser avec vous des verbatims qui sont tirés d'exercices que j'ai fait avec les étudiants de l'INSPE de Rouen sur leur représentation du numérique et ce que ça pouvait apporter à leur futur métier. Donc voilà, on pourra en discuter après la séance hein, sur est-ce que ça résonne avec des choses que vous, en tant qu'enseignant, vous avez expérimenté aussi. Et puis surtout, vous présenter un essai d'analyse de la plateforme PIX, qui est donc la plateforme de certification et d'évaluation des compétences numériques, qui est déployée en ce moment au niveau académique à l'échelle nationale et qui remplace les référentiels antérieurs, donc B2I et C2I. Voilà. Et donc c'est une analyse qu'on a commenée avec Nolwenn, hein, bien sûr. Pour vous montrer qu'il peut exister des liens étroits entre la réflexion sur le vocabulaire, sur notre rapport au langage et sur les idéologies, je voudrais partir en fait de verbatim qui sont tirés d'exercices que j'ai fait avec les étudiants de l'INSPE. Je leur avais demandé de réfléchir à qu'est-ce que le numérique en fait fait à mon métier d'enseignant, qu'est-ce que ça fait d'utiliser le numérique par rapport à mes relations avec trois types d'acteurs essentiels, donc les parents, les collègues et les élèves. Et puis donc vous avez des extraits de verbatim ici, de réflexion des élèves. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'ils semblaient avoir pas mal de recul lorsqu'ils s'interrogeaient sur leur futur métier, mais beaucoup moins de recul quand il s'agissait de parler de l'outil en lui-même. En fait, ils répètent beaucoup des discours qui relèvent de discours marketing qui sont aussi diffusés par les constructeurs de ces outils. Voilà. Et dans ces verbatims-là, on peut repérer aussi des impensés du numérique, c'est-à-dire que on voit l'influence d'une pression à rendre le cours ludique. On le voit dans ce qu'ils expriment. Hein. On voit aussi une prise de conscience d'injonctions très fortes, d'injonctions sociétales par rapport à la prise en compte par l'école de ces outils numériques. Une injonction aussi à la modernisation de l'enseignement par l'outil, comme si le fait même d'utiliser en fait, des outils numériques rendait la pédagogie moderne et l'enseignant moderne du même coup. Ce qui m'a frappé et presque touché aussi dans ces témoignages d'étudiants, c'est qu'on pouvait ressentir presque une forme de tristesse à l'idée d'être obligé, en fait, j'ai senti qu'ils se sentaient presque obligés de légitimer l'utilisation des outils numériques pour se sentir intéressant et notamment vis-à-vis des élèves. On a le témoignage du bas, c'est une étudiante d'histoire qui écrivait quand même « Beaucoup d'élèves ne s'intéressent pas à l'histoire parce que c'est une matière qui renvoie au passé et donc ce ne serait pas intéressant, voire inutile. » Donc c'est quand même un petit peu frappant parce que c'est une apprentie professeure d'histoire qui nous dit ça. Donc voilà, à partir d'une réflexion finalement assez simple sur les mots employés sur le vocabulaire, on peut ensuite aller s'intéresser donc aux impensés. Qu'est-ce que c'est que ces impensés ? Ils sont la définition est là. Donc c'est un terme qui vient du travail du chercheur Pascal Robert. Vous avez donc la définition s'affiche. Et il insiste en fait sur l'idée que les technologies de l'information et de la communication et leurs enjeux politiques et sociaux ne sont même plus questionnés, en fait, tellement la place de ces technologies dans la société serait évidente. Et il me semble qu'on retrouve ces processus dans le domaine du numérique éducatif, et ça infuse aussi les discours des étudiants, des futurs enseignants. Donc, on peut s'intéresser aussi autrement aux impensés. Alors, se confronter à cette notion d'impensé, c'est quelque chose, encore une fois, de difficile, autant pour l'enseignant que pour l'élève. On n'est pas là pour vous dire que c'est d'une évidence folle. Ça reste tout de même intéressant et nécessaire. Et je vais vous faire des propositions pour appuyer cette idée-là. Donc, pourquoi ça peut être difficile pour l'enseignant? On pourrait passer en fait pour rabat-joie, voire pour complotiste, quand on commence à déconstruire les architectures des outils numériques, à questionner les modèles économiques qui sont derrière. Finalement, on pourrait nous dire, bah oui, mais en même temps, on fait plein de choses super avec le numérique. Pourquoi chercher à tout critiquer? L'idée, c'est pas du tout de tout critiquer, c'est de d'être lucide sur les acteurs qui sont en présence et sur certaines formes de messages qui passent à travers les outils, de toute façon. Et puis pour les élèves, ça peut être aussi une forme... il y a une forme de difficulté, voire de violence. Alors, la chercheuse Anne Cordier, qui elle travaille sur les pratiques informationnelles des adolescents, a montré, avec donc, l'exemple de la recherche d'information, une différence très grande entre la vision de la recherche d'information qui est défendue par l'institution. Donc, dans ce cadre institutionnel, la recherche d'information, elle est souvent vue comme une démarche intellectuelle, appuyée sur une méthodologie très rigoureuse. Alors, ce qu'elle a observé sur le terrain, c'est que les élèves, les adolescents, pratiquaient une forme de flânerie informationnelle, se baladaient dans différents espaces du web et qu'ils étaient aussi guidés par le plaisir et que donc ils ne voyaient pas l'intérêt de l'approche méthodologique. Voilà. Donc dès qu'on est dans cette perspective de déconstruction, ça implique d'assumer une posture de remise en cause, mais aussi de ses propres allants de soi. On s'inclut d'ailleurs toutes les deux dans le questionnement de nos propres... De nos propres impensés. Et pourquoi, cela dit, ça reste une démarche nécessaire? Parce que si on veut que l'éducation aux médias et au numérique qui nous occupe aujourd'hui soit réellement émancipatrice, au sens de former des individus qui sont autonomes, et si on pense, donc, encore une fois, au langage et à l'étymologie du mot d'autonomie, qui renvoie au fait de se gouverner seul, ça renvoie à un droit que certaines cités grecques avaient acquis au temps de l'Empire romain, ça désigne aussi cette autonomie, le fait pour une collectivité de s'administrer elle-même. Et donc si on veut doter le plus possible les élèves de ces outils intellectuels-là, il faut aller heurter un petit peu leurs allants de soi. Et les nôtres, encore une fois, par la même occasion. Donc en lien avec cette réflexion sur les impensés, on peut aussi réfléchir à la puissance des représentations qui sont véhiculées par le langage. Voilà. Donc, hop, je vais plutôt parler d'abord de la métaphore. Donc, un objet linguistique qui illustre bien la puissance de ces représentations, c'est la métaphore. Et donc, un chercheur en sciences de l'information et de la communication, qui s'appelle Gustavo Gomez Meria, a travaillé sur la métaphore du nuage, notamment en ce qui concerne les services de stockage de contenu en ligne qu'on appelle communément cloud. Et il a montré que dans le cas des objets et des espaces numériques, les métaphores servent en fait à véhiculer du sens. Ces métaphores, elles viennent légitimer la pénétration des objets numériques dans toutes les sphères de la société, c'est-à-dire qu'elles viennent réduire les frictions techniques qu'on pourrait ressentir face à un objet dont on se dit « mais finalement, je ne comprends pas très bien à quoi ça sert ». Bien, les métaphores, elles viennent habiller en quelque sorte l'infrastructure technique de ces outils pour qu'on les accepte plus facilement. Et donc Yves Jeanneret, à ce propos, nous dit qu'on sait qualifier finalement des outils techniques nouveaux seulement à partir de métaphores qui nous les représentent en fonction d'expériences qu'on a fait, en fonction d'expériences que l'on connaît. Ça nous les rend en fait quotidiens, familiers. Les métaphores servent à ça. Et donc ça s'incarne très bien dans la métaphore du nuage qui est utilisée avec les objets qui relèvent donc du cloud. Or, il se trouve que derrière cette image du nuage, il y a des valeurs très anciennes Par exemple, l'idée d'ubiquité, l'idée d'immatérialité, l'idée même d'une forme de transcendance. Le nuage, ça peut être un symbole de quelque chose de divin qui descend vers nous. Et une fois qu'on est face à ces impensées culturelles qu'on partage, hein, de toute façon, eh bien, on évite de s'interroger. Finalement, ça vient masquer la complexité technique de ces objets numériques et ça vient masquer surtout leur matérialité. C'est pour ça qu'il est si difficile de s'en rendre compte et d'interroger les élèves là-dessus, puisque si même nous, on a du mal à la voir, c'est compliqué de la faire remarquer donc, aux élèves. Donc, un autre impensé qu'on peut repérer quand on s'intéresse à la fois aux espaces et aux objets numériques, c'est celui de l'industrialisation de l'éducation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'industrialisation ? Et ça s'applique, ce phénomène s'applique malheureusement à l'éducation aujourd'hui. Hein. C'est ce que vous voyez donc là, c'est un concept qui a été travaillé par Pierre Meuglin notamment. Hein. Et donc l'industrialisation, c'est un phénomène qui est créé par plusieurs facteurs. Il va y avoir un facteur de technicisation, c'est-à-dire que, pour le dire plus simplement, on va s'appuyer de plus en plus sur des objets techniques. Hein. Ensuite, un phénomène de rationalisation, c'est-à-dire que ce qui va être important, c'est l'efficacité. On va évaluer le travail avec des critères quantitatifs très très précis, donc découper le travail aussi en étapes très précises. Et puis, un phénomène d'idéologisation, qui est l'idée de véhiculer finalement des références culturelles sans vraiment l'assumer. Et il nous a semblé d'ailleurs que un objet numérique qui symbolise bien cette industrialisation de l'éducation, c'est la plateforme. Et on pourrait même parler d'impensé de la plateforme, c'est-à-dire que Facebook, c'est une plateforme de réseau social. Netflix, c'est aussi une plateforme de diffusion de contenu. Les UNT que vous utilisez sûrement, ce sont aussi des plateformes. C'est-à-dire que si on met la focale sur le champ de l'éducation, d'un bout à l'autre de la chaîne de construction du savoir, on retrouve ces plateformes. Des MOOCs, aux plateformes des structures privées qui viennent concurrencer la formation. Je ne sais pas si vous connaissez le campus, par exemple, êtreprof.fr. C'est un espace sur un site qui propose des ressources formatives pour les enseignants. Des ENT, voilà, tout ça, ce sont des plateformes. Et ces plateformes, elles véhiculent des visions de l'éducation et de la place de la technique au sein de cette éducation qui ne sont pas neutres et qu'il faut apprendre à repérer et à analyser. Hein, c'est important. Voilà, sachant que cet objet plateforme, il vient aussi masquer par une prétendue horizontalité des rapports de pouvoir. Derrière l'idée d'une absence de hiérarchie, en fait, il y a l'idée qu'on évolue dans un marché qui est structuré en fonction de l'offre et de la demande. Donc la plateforme, c'est aussi un objet économique. Et tout ça, c'est un construit qui existe derrière une interface apparemment lisse et simple qu'on utilise tous les jours. Voilà. Du coup, pour ancrer un petit peu la réflexion dans un objet un petit peu plus concret, j'en viens enfin à la plateforme Pix. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une plateforme qui a été créée dans le cadre d'une start-up d'État. Donc puisqu'on vous parle des idéologies, il faut détailler quand même un petit peu ce que c'est que cette start-up d'État et comment elle relève... Oui, que c'est une structure qui a une culture professionnelle particulière et qui a donc une vision, une façon d'envisager l'éducation qui est du coup particulière. Une start-up d'État, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit groupe de travail qui est en lien avec l'institution, qui est financé par l'institution et qu'on charge de résoudre un problème en lien avec des politiques publiques. Et donc la plateforme Pix a été créée par une start-up d'État. Et elle vient donc, cette plateforme, évaluer et puis certifier, ça c'est très important, les compétences numériques. Elle remplace donc B2I et C2I. Et donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer à la fois comment on peut analyser en même temps le design de cette plateforme, et puis à travers l'analyse de ses slogans, le vocabulaire qui est employé, le langage, et que ces deux éléments, design et langage, construisent du sens. Quand vous voyez cette capture d'écran, on n'est pas face à un espace neutre et transparent. Et j'essaierai donc de vous montrer qu'il y a des impensés dans cette plateforme, un fond culturel dont on peut repérer des signes et qui nous disent des choses d'une vision de l'éducation, et encore une fois, et de la place du numérique en son sein. Donc juste un tout petit aparté, très court, en tant que formatrice à l'INSPE, moi j'ai été confrontée à la pratique de cette plateforme et j'ai essayé en fait de la manipuler dans tous les sens possibles, enfin j'ai eu l'impression, c'est-à-dire que j'ai essayé de projeter un peu comme maintenant sur grand écran une tâche qui était demandée aux élèves pour moi m'immiscer dans le parcours qui était prévu par la plateforme et proposer de la remédiation, donc des savoirs qui étaient en lien avec les tâches demandées, et ça n'a pas marché. Les étudiants en fait étaient poussés à suivre le parcours un petit peu ludique de la plateforme et donc n'écoutaient pas quand moi j'intervenais parce qu'ils étaient plongés en fait dans le fil qui leur était proposé sur la plateforme. J'ai ensuite essayé de les laisser travailler en autonomie et en fait très vite ils se sont ennuyés, une fois que les mécaniques ludiques s'étaient épuisées, c'était très difficile de faire revenir leur attention sur un point central. Et puis ce qui m'a frappée aussi, c'est que la plateforme, elle préfigure un parcours d'usage qui est « je suis seule devant mon écran ». Alors que moi, ce que j'ai pu observer sur le terrain, c'est que les élèves s'entraidaient en fait pour réussir à répondre aux questions, aux problèmes qui leur étaient posés par la plateforme. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer qu'il y a différentes figures d'utilisateurs et notamment de citoyens qui sont modélisés dans la plateforme et je vais essayer de vous le montrer à partir de slogans et puis d'une analyse donc du design. Du coup, oui, une première figure qu'on a pu repérer avec Nolwenn, hein, c'est celle du quantified citizen. Donc ça renvoie cette expression au phénomène du quantified self. Donc, je ne sais pas si vous avez des smartphones, mais on a plein d'applications qui, en permanence, comptent le nombre de calories qu'on brûle, je ne sais pas, le nombre de pas qu'on fait, le nombre de kilomètres qu'on parcourt à vélo, voilà, je dis n'importe quoi. Eh bien, c'est le quantified self, c'est cette idée, en fait, que le sujet va être confronté en permanence à la quantification de ses comportements. On va compter tout le temps ce qu'on fait. Et cette quantification, elle va être promue non seulement comme un instrument de construction de son identité, mais aussi comme une sorte de benchmark personnel, c'est-à-dire qu'on va tout le temps essayer de se perfectionner, d'être de plus en plus performant. Et cette vision de l'humain-là, elle est médiée par des machines et notamment par des plateformes. Pourquoi on a repéré cette figure du quantified self sur Pix ? Parce que en fait, vous avez des indicateurs un petit peu partout dans la plateforme. Alors là, on ne voit pas très bien, mais vous voyez un petit écusson avec niveau 3 gagné. Oui, on m'entend mieux. En fait, en permanence, on vous donne des chiffres qui viennent rythmer votre progression dans la plateforme. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le cofondateur de Pix, qui s'appelle Benjamin Marteau, disait dans une interview que pour lui, la plateforme permettait de travailler les compétences numériques qui seraient essentielles au bagage de l'honnête homme et de l'honnête femme du XXIe siècle. Là encore, si on s'intéresse au langage, la référence à l'honnête homme, elle n'est pas du tout neutre. Elle renvoie à une figure idéalisée de comportement moral et social qui est née au XVIIe siècle. Voilà. Et donc, nous, on a repéré que plutôt qu'un honnête homme, là, on avait un homme quantifié, mis en scène dans cette plateforme. On a aussi repéré la figure du citoyen agile et autonome. Donc, je vais commencer par le citoyen autonome, qui est qu'on peut repérer dans différents endroits, hein, mais notamment sur la page d'accueil. Donc la capture que vous avez là, c'est celle de la page d'accueil. Et c'est très intéressant. Déjà, on vous dit en gros, paf, cultivez vos compétences numériques. Donc nous, ça nous a fait penser, finalement, ce petit fond jaune avec des alvéoles, à l'image des abeilles, qui sont des insectes donc industrieux, qui butinent, qui font fructifier ici leurs compétences numériques comme du miel, et donc dans l'optique de Pix, comme un capital, hein. Sachant que le cofondateur assume clairement une vision de l'institution où il faudrait en fait rapprocher l'école d'un modèle économique. Hein. Donc ça, c'est pas neutre non plus. Et puis, cultiver vos compétences numériques, ça nous a fait penser aussi à la fin un petit peu ironique du Candide de Voltaire, hein, quand le personnage dit « Cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin ». Et c'est un peu une conclusion ironique, puisqu'on critique ici le relativisme du personnage. Bon, c'est une référence culturelle qu'on a repérée là, dans ce slogan-là. Hein. Et qui vient appuyer cette idée donc de l'abeille industrieuse qui va travailler seule en autonomie donc ses compétences numériques. Par rapport à l'idée d'agilité, donc, Je vous donne juste un exemple d'exercice qui était demandé aux gens qui se testaient. Donc ici, on vous demande en fait de repérer l'auteur d'une modification sur Wikipédia. Et vous voyez, on a un petit cadre préformaté. On vous demande juste d'indiquer son nom ou son pseudo. Hein. Et il se trouve que l'usager, dans le cadre de cet exercice, il doit tâtonner tout seul pour trouver l'espace sur Wikipédia, qui est un espace assez riche, l'espace qui s'appelle « Historique de modification » sur Wikipédia. L'usager doit tâtonner tout seul pour le trouver s'il ne le connaît pas au préalable. Et du coup, ça nous a amené à dire qu'ici, il y a toute une richesse conceptuelle qui est effacée, puisque cet espace sur Wikipédia, l'historique de modification, en fait, il incarne un concept qui est très important dans le fonctionnement de cette plateforme, qui est celui de vigilance participative, hein, que des chercheurs ont étudié, c'est-à-dire que sur Wikipédia, il y a contrairement aux idées reçues, il y a une multitude de médiations qui permettent de faire vivre le projet encyclopédique de Wikipédia, qui est d'être une encyclopédie fondée sur la qualité des sources secondaires, et ces sources, en fait, elles sont constamment vérifiées par des médiateurs dans des espaces bien définis qui servent aussi à régler les conflits. Donc, on ne peut pas publier n'importe quoi, n'importe comment sur Wikipédia. Et là, toute cette richesse conceptuelle et fonctionnelle, elle est complètement effacée. On vous demande juste de rentrer un nom dans un petit cadre, un petit formulaire un petit peu étriqué. Donc, l'éthique de la plateforme et sa signification aussi historique, puisque c'est un objet qui remet en cause le projet encyclopédique papier ou qui le renouvelle, enfin on peut le voir de différentes manières. Mais en tout cas, il y a une richesse historique qui ici est effacée au profit d'une approche uniquement par compétence, ou en tout cas on se concentre uniquement sur le résultat de la recherche. Hein. Et puis, dernière figure qu'on a pu identifier en termes de représentation de l'utilisateur, c'est celle du citoyen gamer. Donc ici, vous avez une carte des 16 compétences que vous pouvez travailler sur la plateforme. Ça renvoie donc aux cartes de jeu, voire même à des cartes qui ont été dupliquées dans l'univers numérique, je ne sais pas, les cartes Magic, ce genre de choses. Et puis, en fait, tout au long du parcours, vous avez différents signes qui renvoient, par exemple, à l'univers du jeu vidéo, une barre de progression qui ressemble à la barre de points de vie que vous pouvez trouver dans ces jeux. Quand vous passez un niveau, vous avez un petit écusson qui vous dit bravo, vous avez passé un niveau, et vous devez gagner des pix, en fait, pour progresser dans la plateforme. Donc, plein de références à l'univers du jeu et des références qui peuvent être éloignées, finalement, d'objectifs éducatifs ou émancipateurs. Alors, pour conclure sur cette plateforme, moi, ce qui m'aurait intéressé, en fait, finalement, c'est de la décortiquer et décortiquer avec les étudiants la vision que cette plateforme va donner de l'éducation aux médias, de l'éducation à la citoyenneté et de l'acquisition d'une culture numérique. Puisque là, l'exercice sur Wikipédia dont je vous parlais, il s'inscrit dans un module sur PIX qui s'intitule « Mener une recherche et une veille d'information ». Donc, dans cette plateforme, sont traitées des compétences qui relèvent de l'EMI, hein, et elles sont mises en scène d'une certaine manière qui, encore une fois, n'est pas neutre. Donc moi, j'aurais aimé pouvoir disséquer un petit peu cet objet numérique particulier, non pas dans l'idée de critiquer pour critiquer, encore une fois, mais en appliquant cette méthodologie de sémiotique sociale sur laquelle Nolwenn a travaillé et dans laquelle moi j'essaye maintenant de m'inscrire, c'est-à-dire d'intégrer, bien sûr, les étudiants à ce travail de déconstruction. Donc c'est sûr que ça prendrait du temps, que ça ne serait pas une entreprise facile, mais ça permettrait de sortir d'une approche un petit peu utilitariste du savoir. Et puis je voudrais terminer sur l'idée que la réflexion sur le langage et sur les idéologies, elle est éminemment politique. Hein. On peut se demander si finalement c'est pas un enjeu d'expression citoyenne. Est-ce que lutter contre les impensés du numérique éducatif, finalement, c'est pas redonner un poids politique à des objets qui sont banalisés, hein, c'est-à-dire se demander tout simplement ces objets, qu'est-ce qu'ils nous disent de l'école en train de se construire comme institution, et derrière les espoirs associés à ces outils et à ces médias, est-ce qu'il n'y a pas une tentation finalement de gestionnariser l'éducation et l'école. On pourra en parler ensuite ensemble, hein, bien sûr. Oui, tout à fait, merci. L'idée de gestionnariser, ça vient donc du concept de gestionnarisation qui a été donc théorisé par Pascal Robert Et c'est donc l'idée que l'approche gestionnaire, elle va être finalement appliquée à l'ensemble des activités sociales et même des activités qui échappaient à cette approche-là, et qu'on va avoir des critères d'efficacité, notamment quantitatifs, hein, et de productivité, qui vont être associés à une notion de bonne gestion. Mais ces critères-là, qui sont pas complètement absurdes, en fait, ils vont devenir un but en soi, et non plus un moyen pour mener à bien des activités. Et donc, l'enjeu, en débusquant en fait les traces de cette gestionnarisation dans certains outils numériques, et notamment qui peuvent être labellisés par l'institution, hein, encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont labellisés par l'institution qu'on n'a pas le droit de les critiquer. L'enjeu, il est démocratique. L'idée, c'est préserver la pluralité des voix et des visions de l'école. Et bien sûr, au cœur de cette pluralité, il y a les voix des enseignants. Voilà.
Vous l'avez compris, hein, nous, notre objectif, c'est clairement pas d'utiliser cette forme de sémiotique un peu particulière, hein, qui s'appuie sur les écrits d'écran, comme une arme fatale, hein, comme un outil qui permettrait de tout dire et de tout dévoiler. C'est plus de s'en servir comme d'un point d'appui aussi pour la discussion avec des étudiants ou des apprenants, et d'enclencher une dynamique de réflexivité, hein, par rapport à ça. Donc, ce que moi j'ai pu faire sur la presse en ligne, Facebook, ce que Tiffany aimerait bien faire sur Pix, mais qu'elle ne peut pas encore faire. je vous ai demandé de travailler un petit peu les étudiants là de l'option IDP sur des analyses d'interface. Hein. Vous pourrez peut-être nous dire après ce que vous avez pensé aussi de cet exercice, hein. Si ça vous a apporté quelque chose et quoi. Mais voilà, donc l'idée, c'est d'amorcer la construction de ces outils, un peu de conscientisation. Par le repérage de ces formes graphiques, de ces cadres industriels d'écriture qu'on ne voit plus tellement, ils nous sautent aux yeux, en fait, finalement. Hein. C'est aussi un travail, je le précise, que je mène avec Alexandra Zemmer, à l'Université Paris 8, qui travaille également au SEMTI, sur d'autres objets, parce que en fait, ça ne concerne pas uniquement les interfaces numériques, ce type de dynamique. On travaille sur les images. On travaille sur les séries télé aussi. Donc voilà, c'est aussi des méthodologies en éducation média qu'on essaye de mettre en place, qu'on peut utiliser finalement sur toute une panoplie d'objets. L'idée, c'est vraiment aussi de distinguer entre qu'est-ce que c'est que l'esprit critique et qu'est-ce que c'est que la réflexivité. La réflexivité étant ici l'idée d'étudier la position aussi de celui qui juge, en fait, hein, et la construction du processus de jugement. Donc c'est aussi de tendre un miroir vers nos pratiques individuelles et collectives. Voilà. Pour conclure, il y a différentes choses que moi j'aimerais mettre en œuvre, en fait, ici au sein de l'INSPE, dans le cadre de la formation numérique. Cette idée de réflexivité, on essaye aussi, j'essaye aussi de, par exemple, à travers la construction d'artefacts numériques que les étudiants d'IDP vous êtes amenés à faire. Je prends l'exemple de la story scolaire. Donc l'idée, c'est de créer un outil qui permet de faire des stories scolaires. C'est d'arriver à intégrer à l'intérieur même de l'outil ces outils de la réflexivité, ce qui est très compliqué à faire, mais qui me paraît essentiel. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste d'aider les élèves à construire facilement des outils, des stories, mais également de leur donner un peu des armes pour comprendre pourquoi les techniques d'écriture, qu'est-ce que l'écriture animée va changer aussi à la compréhension du texte, le cadrage de l'attention dans lesquels ces stories peuvent s'insérer. Donc l'enjeu, pour moi, il est là, hein, c'est aussi d'arriver à créer des outils qui permettent, en tout cas en éducation média, de qui se donnent à eux-mêmes les conditions d'une réflexivité. Bon, voilà, après il faut y parvenir, mais c'est vraiment vers ça que je vous pousse. Bon, il y a les enjeux économiques sur lesquels Tiffany insiste beaucoup, on pourra en reparler. Et puis la dernière question qu'on s'est posée, nous aussi, avant de cette intervention, c'est jusqu'où on a le droit de porter un regard critique sur ces objets à l'intérieur même de l'institution éducation nationale, de l'INSPE aussi. Voilà, c'est pas toujours facile d'arriver avec ce type de regard, critiquer Pix, hein, ou en tout cas de porter un regard critique sur la plateforme de Pix, alors qu'aujourd'hui, bon, elle est utilisée de manière un peu mécanique, voilà, pour valider des compétences. Donc comment on se positionne, voilà, nous on a un statut d'enseignant-chercheur qui nous donne le droit, hein, d'avoir ce type de posture, mais jusqu'où on peut aller, jusqu'où ça peut être un outil d'éducation aux médias, à l'information aussi pour vous dans le cadre des formations. Voilà. On vous remercie d'être aussi nombreux et attentifs.